Bonjour et bienvenue sur Littérature SFFF. Aujourd'hui, je vous parle de la trilogie Les Seigneurs des Tempêtes de Kay Meyer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous présenter la façon dont je vais procéder. Donc, il y aura un focus sur la maison d'édition, un focus sur l'auteur, et ensuite, je vous parlerai des livres, tome par tome, si c'est une trilogie ou une saga, ou seulement le livre unique que je vous présente. Et pour finir, un petit topo général sur mon ressenti et tout ce que je peux trouver pertinent d'ajouter sur ce livre. Donc pour ce premier épisode, on commence avec la maison d'édition La Talente, qui commence son aventure sous forme d'une petite librairie nantaise du même nom, en 1979, avec à sa tête Pierre Michaud. C'est en 89, avec Mireille Rivalan qui va fonder les éditions La Talente, et créer en 88 la collection La Bibliothèque de l'Évasion, qui sera ce qu'on appelle communément les mauvais genres. Policiers, romans noirs, science-fiction, fantastique, etc. Et c'est à partir de 2000 que la dentelle du cygne, la collection qui nous intéresse aujourd'hui et pour toutes les fois à venir, voit le jour. On y trouve notamment les monuments de la SF tels que David Weber, Pierre Bordage ou encore Ursula Le Guin, mais également un grand nom de la light fantasy comme Terry Pratchett et son Disque Monde, Guy Gabriel Kay, très connu pour la fantasy historique, notamment son titre Les Lions d'Al-Rassan qui a fait grand bruit sur la blogosphère. Et pour ma part, je peux peut-être titiller votre curiosité avec La Cour d'Onyx de Marie Brennan, qui est de l'urban fantasy dans le sens premier du terme, c'est-à-dire les figures de la féerie, tout ce qui est petit peuple et normalement symbole de la nature, qui sont cette fois transposées dans le milieu urbain. Et en plus de cela, l'intrigue se passe sous le règne de la reine vierge, c'est-à-dire Elisabeth Tudor. Et c'est très bien fait. Passons au petit focus sur Kay Meyer. C'est quand même lui qui nous intéresse aujourd'hui. Kay Meyer est donc un écrivain, journaliste et scénariste de 49 ans, d'origine allemande. Il est traduit dans 27 langues et il a déjà écrit une cinquantaine de romans dans divers genres comme la jeunesse, l'historique et le fantastique. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans les éditions de La Talente dans leur collection jeunesse Le Maèdre pour sa trilogie Le Peuple des Nuits qui, pour la faire courte, se passe en Chine, avec la disparition des dragons, et vous y trouverez des démons, des mages immortels et des guerriers manchous. Moi, ça me fait très envie, même si la jeunesse n'est pas du tout mon truc à la base. Passons maintenant à la trilogie Les Seigneurs des Tempêtes, qui a été éditée entre 2014 et 2015 chez La Talente. Donc, pour vous situer, on est au Proche-Orient, entre Bagdad et Samarcande, séparé par le désert du Karakoum. On se situe en 809 de notre ère, date correspondant à la fin du règne du calife abbasside Haroun el-Rachid. Si vous avez lu Les Mille et Une Nuits, vous avez reconnu le nom du très fameux calife sage et éclairé dans les histoires de Scheherazade. On en vient donc à notre trilogie. Le tome 1 s'appelle « Le pays des djinns ». Dès les premiers chapitres, on sait qu'il s'est passé une sorte de catastrophe naturelle qu'ils appellent la magie sauvage. C'est-à-dire que des créatures dangereuses et des djinns sont apparus il y a une bonne cinquantaine d'années, au moment où commence l'histoire. On apprend que cette situation a parqué les humains dans leur propre ville, que ce soit Bagdad ou Samarcande pour les villes qui nous intéressent, mais il y en a d'autres. Et c'est comme s'ils étaient en prison ouverte, dans leur propre ville. Car au-delà des murs qui les protège. Il y a la mort ou l'esclavage, selon les envies des djinns. On commence donc dans la ville de Samarcande, où on apprend que la situation politique avec l'émir Karaman n'est pas vraiment terrible. Même s'il doit allégeance au calife de Bagdad, les 2000 km qui le séparent du pouvoir, le tout infesté de djinns et autres créatures dangereuses, lui donnent les coups des franges pour s'arroger pas mal de pouvoir. Et si les gens ne sont pas contents, leur cadavre décorera les remparts. Autant dire que la rébellion gronde. Sont introduits nos trois héros, les deux frères ennemis Tariq et Junis, et la mystérieuse Sabathea. Tariq Al-Jamal, 28 ans, est ce qu'on appelle plutôt branché autodestruction, alcoolisme, course illégale de tapis volant. On apprend rapidement d'ailleurs que cette attitude dure depuis plusieurs années suite à la perte de la femme qu'il aimait, une rebelle qui voulait impérativement gagner Bagdad. Et lui, en tant que contrebandier, avait l'expertise pour l'emmener dans cette lointaine ville, ce qu'il a déjà fait régulièrement. Mais ce jour où il a voulu emmener Mariam, un drame s'est passé dans le désert avec un prince djinn. Tariq ne s'est jamais relevé de cet incident et depuis n'a plus jamais quitté Samarcande. Son frère Junis, qui l'idolâtrait petit, en est devenu à le détester et le rend responsable de cette femme qu'ils aimaient tous les deux. Vient ensuite Sabathea, donc cette jeune femme très mystérieuse a une mission, elle doit se rendre à Bagdad. Tariq l'envoie péter, elle va donc se tourner vers Junis, trop content de battre son frère. Il va donc voler quelques affaires à Tariq, qui a lui tout le nécessaire pour traverser le désert. Cette situation oblige donc notre héros à se secouer des puces et aller les chercher. Son but premier, c'est avant tout de les ramener tous les deux par la peau du cul à Samarcande. Mais une fois qu'il les trouve dans le désert, les péripéties vont s'enchaîner et il n'y a plus qu'à foncer droit devant. Cette traversée du désert sera riche en péripéties, mais permettra également à Tariq d'affronter ses propres démons et de se réconcilier avec son frère. Mais pour autant, ce ne sera pas une croisière tranquille, étant donné qu'ils vont être attaqués de toutes parts, séparés tous les trois, et qu'on va faire la connaissance d'un prince djinn qui se décompose sur place. C'est une vraie figure d'horreur. Mais en même temps, on aura l'occasion de visiter la cité d'une antique civilisation, dont ils ne savent pas trop d'ailleurs comment elle a disparu. Le tome 2 s'appelle « La guerre des vœux ». Sabathea et Tariq sont parvenus à Bagdad, immédiatement séparés, même si dans le tome 1, si on est un peu attentif avant même de quitter Samarcande, vous aurez une petite idée de qui est Sabathea. C'est dans ce tome que vous connaîtrez sa mission exacte et son identité réelle, et surtout complète. Tariq, pour sa part, erre dans la ville de Bagdad, et c'est l'occasion de rencontrer une secte de femmes, les Sœurs du Pan, ainsi que le fameux commerçant muet qui va le mettre sur la piste du fameux troisième vœu. Car c'est dans ce tome qu'on apprend que les Ifrites, ou autrement appelés les djinns des vœux, ont un étrange problème. Au moment de réaliser le troisième vœu, ils perdent immédiatement tout leur pouvoir. Ils ne peuvent pas réaliser cet ultime vœu et ne peuvent plus jamais en réaliser aucun. Et également, il y a quelques petits pépins au niveau de la réalisation des deux premiers. Junis, lui, est toujours dans le désert et c'est avec lui qu'on va enfin se retrouver aux côtés des fameux seigneurs des tempêtes et comment fonctionne leur pouvoir ainsi que rencontrer deux personnes très importantes. En route donc pour le troisième tome, Scarabapur. Junis, Tarik et Sabathea sont réunis et séparés au Sisek. Junis reste dans les environs de Bagdad car il a une promesse à tenir et une personne très importante à délivrer. Mais Bagdad est encerclé par toutes les armées djinns du pays. Et dans ce qu'on pourrait appeler une mission suicide, il va faire l'étrange rencontre d'une esclave qui va remettre en perspective tout ce qu'il pensait être juste, ou au moins ce qu'on lui avait appris comme tel, ce qui va amener beaucoup de nuances dans ses réflexions sur le bien et le mal, ce qui permet à ce tome d'être plus profond et ne plus rester dans le côté manichéen qu'il y avait au départ. De leur côté, Tarik et Sabathea partent donc vers Scarabapur, guidés par un cheval d'ivoire, car sans ce guide, ils auraient été bien en peine pour faire apparaître cette ville, car apparemment, elle n'est trouvable que si on a la foi, ce qui complique pas mal les choses. Scarabapur est la ville de toutes les réponses, car de toutes les origines. C'est de là qu'est apparue la magie sauvage, les djinns, la disparition du troisième vœu. Toutes les réponses sont là. Encore faut-il y parvenir vivant. Alors, qu'ai-je pensé de cette trilogie ? La construction en roman choral permet d'avoir un rythme constant tout au long de la trilogie. On a le point de vue de chaque personnage, on sait qui fait quoi à l'instant T, et on a également l'accès aux pensées de chaque personnage, ce qui permet d'approfondir l'intrigue. Le fait que ça se passe au Proche-Orient me permet également d'être dépaysé par rapport à ce que je peux voir d'habitude dans la fantasy, c'est-à-dire du médiéval européen, même si j'aime ça. Ça permet juste de changer agréablement de temps en temps. De même, le système magique, c'était vraiment pas mal. Donc déjà pour voler, ce qui me fait penser que je ne vous ai pas encore dit en quoi consistait la contrebande de Tarik al-Jamal. Il fait donc de la contrebande de poils de dragon. Alors, pas la peine de sauter au plafond, il n'y a pas la queue d'un dragon dans ces trois tomes. On ne parle que des poils. Et ces poils sont tissés dans les tapis pour les rendre magiques et donc volants. Mais pas que. Il y a également la nécessité au pilote d'imposer sa volonté au tapis. Pour ce faire, il fond sa main à l'intérieur de la trame de son tapis tout en lui commandant ses actions. Donc c'est avant tout une bagarre de volonté. Disons que si la bestiole est rétive, elle peut vous flanquer dehors. À 100 mètres du sol, on est bien d'accord que ça va pas faire un pli. Parce que oui, le tapis a aussi une sorte de conscience. Il peut même être amené à paniquer s'il y a quelque chose qui peut le détériorer comme le feu, l'eau ou les jets d'acide l'atteignent ou risquent de le faire, ce qui nous oblige donc à en prendre soin. Cette fantaisie orientale est également saupoudrée de steampunk sous forme d'oiseaux mécaniques dans les volières, mais également des très fameux chevaux d'ivoire qui sont des chevaux volants, mais quand on se tient près d'eux, on entend des cliquetis mécaniques. C'est d'ailleurs dans le tome 2 qu'on en apprendra beaucoup plus sur leur origine. Alors, ce que j'aime, c'est aussi cette contrainte qu'il y a pour rester dans les airs, que ce soit djinn ou tapis volant. Il faut impérativement qu'il y ait le sol dessous, et ils ont une distance maximale dans les airs. Sinon, tu décroches et c'est mort. Les seuls exemples de cette contrainte sont les chevaux d'ivoire. Alors, si comme moi, djinn, tapis volant et soleil brûlant vous fait envie, ce livre est fait pour vous. Si par contre, le côté médiéval antique vous en avez marre, quelle que soit la latitude, ben vous passerez peut-être votre chemin. Pour ceux qui ont envie de tenter, il est disponible en papier sur le site de la Talente et en e-book. Pensez également aux bibliothèques s'ils ne l'ont pas, vous pouvez leur demander de le commander. Et vous pouvez, si vous avez envie de vous faire une idée, lire les trois premiers chapitres sur le site Imaginaire. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous y trouverez également les liens vers mes trois chroniques. Et je remercie chaudement mon petit lutin qui m'a offert cette trilogie en e-book. Je vous retrouve le 28 septembre pour vous parler de Calame, le tome 1, Les deux visages de Paul Béant. Salut !